Eh bien, je reprends donc le cours. Vous vous rappelez que nous avons fait une sorte de grande introduction pendant trois séances, où au fond on a interrogé un peu comme on pouvait le désir d'écrire. Et ensuite, nous nous trouvons donc dans la position projective d'un homme, d'un sujet qui décide ou qui veut faire une œuvre. Et nous allons maintenant voir les épreuves par lesquelles il doit passer, les épreuves presque au sens initiatique, par lesquelles il doit passer pour faire cette œuvre. Et j'ai dit que j'ai classé ces épreuves en trois types. La première épreuve, c'est le choix du type d'œuvre. Donc, avant d'arriver au choix, il y a le doute, disons. La deuxième épreuve, qui sera la plus longue, tout au moins exposée, c'est le temps, la patience d'écrire. Et la troisième épreuve sera le sentiment de séparation d'avec le social ou d'avec l'histoire, ou d'avec les autres, que le fait d'écrire une œuvre peut impliquer. Donc aujourd'hui, première épreuve, le choix, le doute. Autrement dit, celui qui veut écrire, qu'est-ce qu'il fantasme, disons, puisque je me place du point de vue du désir, qu'est-ce qu'il fantasme dans l'œuvre à faire? C'est-à-dire, sous quelle espèce voit-il l'œuvre à faire? Qu'est-ce qui, en elle, lui fait envie, de telle sorte que cette envie puisse, au sens fort du terme, parce que tout est là, puisse se transformer pratiquement en travail concret et patient? Autrement dit, quelle image guide, quelle image motrice, on aurait dit autrefois, va-t-il choisir pour placer dans son programme de vie et dans son programme de travail l'œuvre à faire? Alors ici, d'abord, pour ceux qui veulent bien prendre des notes, j'indique de temps en temps les paragraphes, n'est-ce pas? Alors ici, quelques mots sur le problème du contenu. Il serait sans doute normal, et peut-être que certains écrivains le font, je n'en sais rien, de projeter d'abord le contenu de l'œuvre à faire. J'entends par contenu, dans un sens très banal, le sujet de l'œuvre, si vous voulez, ce qu'on appelait dans la rhétorique ancienne la questio, la question, le point à débattre, le sujet. Ou, n'est-ce pas, en français, c'est à la fois ennuyeux et précieux parce que le mot sujet a le sens d'une entité psychique, le sujet humain, et en même temps, il a le sens contraire, celui d'objet, le sujet d'une dissertation. En français, nous n'avons pas deux mots. Tandis qu'en anglais, le sujet, ça serait, en latin, ça serait questio, et en anglais, ça serait topic. Alors, est-ce que on pourrait penser qu'il est normal de projeter d'abord le sujet de l'œuvre qu'on veut écrire? Or, il n'est pas sûr, c'est cela que je voudrais dire, je ne prends pas parti, mais simplement je signale qu'il n'est pas sûr que ce soit le contenu, question, topic, sujet, qui soit fantasmé, c'est-à-dire projeté selon le désir. Le sujet d'une œuvre à faire peut être projeté selon le devoir, ça arrive souvent. Surtout dans le cursus scolaire et universitaire, mais pas forcément selon le désir. Et beaucoup des écrivains passés, bien sûr, de la période que j'appelle romantique de l'écrire, c'est-à-dire la période qui m'intéresse principalement, et dont j'ai dit pour moi, elle allait en gros de Rousseau à Proust, beaucoup des écrivains passés se sont couverts, si l'on peut dire, d'une philosophie de leur œuvre. Or, à lire l'œuvre faite, ou la somme des œuvres faites par ces écrivains, on a souvent l'impression que cette philosophie, dont ils se sont couverts explicitement, est en quelque sorte incréative, non créative. C'est-à-dire que on ne sent pas qu'elle ait eu un rôle moteur dans la mise en branle de l'œuvre, et puisque c'est précisément ce branle qui nous intéresse. La philosophie d'une œuvre qu'a son auteur est sans doute une philosophie sincère, mais très souvent, semble-t-il, à un niveau idéologique d'alibi. C'est une sorte d'après-coup de l'œuvre, une sorte de un saut de solennité apposé à l'œuvre pour effacer sa gratuité statutaire, car l'œuvre est de toute manière largement hors société, au sens sociologique du mot société. Par exemple, mais je vais très vite, je ne fais que cueillir dans une très imparfaite mémoire culturelle qui est la mienne. Par exemple, Zola, l'œuvre de Zola a couvert son œuvre monumentale d'une philosophie qui était une philosophie de l'hérédité. On apprend ça dans tous les manuels. Eh bien, si vous lisez et si vous aimez lire Zola, je dis pas si vous aimez Zola, je sais pas si on peut aimer Zola, mais on peut aimer le livre, pas ce qui est différent. Si vous lisez et si vous aimez lire Zola, en général, je crois qu'on peut dire que c'est pas sa philosophie de l'hérédité qui vous séduit, que vous aimez. De même pour Chateaubriand et la religion. La religion a été, disons, la grande philosophie, la défense de la religion a été la grande philosophie avouée de Chateaubriand. Or, quand on lit du Chateaubriand, c'est pas du tout cela que l'on aime. De même, Flaubert et l'art avec un grand A. Là, se peut. Et une année plus tard, il écrit « Je voudrais faire des livres où il n'y eut qu'à écrire des phrases, si l'on peut dire cela, comme pour vivre, il n'y a qu'à respirer de l'air. Ce qui m'embête, ce sont les malices de plan, les combinaisons d'effets, tous les calculs de dessous. » Donc évidemment, tout ce qui appartient au contenu, comme il dit, ça l'embête. Et ce qu'il voudrait, c'est simplement, il ne fantasme que l'écriture. Alors, on voit, je crois, par ces deux exemples, que la forme, c'est-à-dire la forme selon la pertinence du fantasme, est au fond une sorte d'éventail de présentation possible du volume. Ça va de la structure, dans le cas de Mallarmé, au grain de l'écriture, dans le cas de Flaubert. Ce sont les choses qui sont fantasmées, des structures ou des écritures, mais pas des contenus. Et si vous me permettez, une fois de plus, mais pas la dernière, de m'intercaler entre ces deux géants, mais je l'ai dit, il n'y a aucune prétention à s'identifier, puisque s'identifier, ça n'est pas se comparer, et après tout, je me définis ici par mon plaisir d'écrire, et de ce point de vue-là, je suis l'égal, effectivement, chacun de nous est l'égal de Flaubert, de Proust ou de Mallarmé. Dans le désir, il n'y a pas d'acception de valeur. Il n'y a pas des meilleurs désirs que d'autres. Le désir, c'est le désir. Si j'ai le désir d'écrire, je suis l'égal des plus grands écrivains. Quant à ce désir, pas quant au produit, bien sûr. Alors, donc, en ce qui me concerne, je pense que la forme que je puis fantasmer, ça n'est ni la structure, ni le style. C'est plutôt, semble-t-il, si j'interroge ce que j'ai voulu faire, ce que j'aurais envie de faire, c'est plutôt ce que j'appellerais le rythme de division du volume. C'est-à-dire la forme en tant qu'elle prend parti sur l'opposition continue-discontinue. C'est-à-dire que les formes entre lesquelles j'aurais à choisir si je faisais l'œuvre, le volume, seraient quelque chose comme, c'est là qu'est mon doute, justement, mon choix, ma première épreuve, des formes de continu, le récit, la dissertation, le traité, et des formes de discontinu, les fragments, aphorismes, pages de journal, paragraphe à la Nietzsche, etc. Voilà un peu quel est, moi, mon problème fantasmatique. C'est là que porte mon fantasme. Je ne suis pas sûr de ce que je fantasme vraiment, si c'est le continu ou le discontinu. Mais ce que je sais, c'est que mon fantasme se situe du côté de cette pertinence-là, continu ou discontinu. Et c'est là que je dois choisir. Car le désir ne se connaît pas forcément tout de suite. Et mon fantasme peut hésiter, c'est-à-dire avoir envie de plusieurs formes à la fois, et ce choix est la première épreuve dont je traite actuellement. C'est précisément parce que je peux hésiter entre deux désirs entre lesquels il faudra que je finisse par choisir, que je peux par exemple subir un blocage très long. Si je n'arrive pas à savoir, au fond, ce que je voudrais probablement, dans l'état fantasmatique des choses, c'est faire une œuvre qui soit à la fois continue et discontinue. Mais ça n'est pas possible, logiquement tout au moins. Alors donc je suis bloqué à ce moment-là, parce que je ne connais pas vraiment où est mon désir. Enfin, en général, quand on échoue, quand on sèche, c'est qu'on ne sait pas où est son désir. On a plusieurs désirs à la fois, mais on ne sait pas quel est le désir dominant, etc. C'est pour ça qu'on reste immobile à ne rien faire. Et il faut du temps pour connaître son désir. Ça pourrait faire l'objet d'un sujet, alors, d'un cours prochain, par exemple. Comment connaître son désir? Souvent, d'autres vous aident à le connaître. Par exemple, en vous montrant ce que eux désirent. Et à ce moment-là, on en a immédiatement envie. Enfin, laissons, c'est une digression. Alors, dans la culture où la vision, c'est-à-dire l'appât, l'appétit d'une forme, est ce qui donne le branle à la fabrication de l'œuvre, la forme est évidemment ici très proche de la formule, comme la formule d'un médicament, la formule d'une construction, la formule d'une opération magique. C'est-à-dire la formule, c'est ce qui donne issue, ce qui délie, ce qui dénoue celui qui veut écrire. On peut être noué pendant des mois et des années sans arriver à décider ce qu'on va écrire. Mais si on trouve la formule de son fantasme, la formule de son désir, à ce moment-là, tout d'un coup, ça va se dénouer. Et je pense qu'on pourrait, en interrogeant un peu l'histoire de la littérature de ce point de vue-là, reconstituer le dossier de ces découvertes brusques de formules qui ont permis à des grandes œuvres de démarrer après des mois ou des années de stérilité. Une introduction quelquefois pompeuse, quelquefois ennuyeuse, mais qui ouvrait le livre, justement, comme une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Par exemple, les introductions des romans de Balzac peuvent nous paraître quelquefois lourdes et ennuyeuses, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce sont, je dirais, esthétiquement, ce sont d'admirables ouvertures. Enfin, ce sont comme de très très gros rideaux qui s'ouvrent peu à peu. Et ça, c'était très beau. Et je pense, par exemple, à ce que j'appellerais l'introïte magnifique que Rousseau donna à ses Confessions. Qu'est-ce que maintenant un auteur aurait le courage d'ouvrir son livre par cette phrase que je vous rappelle, qui est si belle et qui est vraiment comme un introïte solennel du livre. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Hein? Est-ce que vraiment, maintenant, vous voyez que ce que je dis là, c'est pas seulement le témoignage d'un contenu, c'est pas le contenu de ce qu'il dit qui est beau. Enfin, c'est beau, bien sûr, c'est important, mais ce qui est beau, c'est le sentiment d'une sorte de grand drapé, de grande sacralisation de la scène qui s'ouvre. Et les fonctions mythiques dont je vais maintenant dire un mot peuvent, certes, me semble-t-il, se perpétuer. Ce dont je vais parler peut se perpétuer. Elles sont par définition transhistoriques, mais je pense qu'elles ne sont plus relancées. Et, ou en tout cas, il y aura de plus en plus, semble-t-il, à moins qu'il y ait un retour dialectique des choses, de plus en plus de résistance à les renouveler et accepter de s'en laisser féconder. Si vous voulez, voici trois de ces fonctions mythiques, de ces grandes figures du livre. La première, je continue encore 5 minutes avant de m'arrêter. Le premier type de livre, là, n'est-ce pas, il est bien clair que je ne décris pas mes propres fantasmes, n'est-ce pas? Pour une fois, je suis un peu objectif. Je décris une typologie, en principe, qui pourrait être objective, des grandes fonctions mythiques du livre. Alors la première, ça serait ce que j'appellerais l'arché-livre, ou pour reprendre un mot pédant de l'allemand, ur-livre, ur, ça veut dire primitif, archaïque, primitif. L'ur-livre, l'arché-livre, origine. Le livre origine pour qui ? Pour une civilisation, pour une religion, et partant pour une civilisation. Je note à ce propos que, il paraît qu'en arabe, il y a l'expression « Ahel el kitabi » qui veut dire « les gens du livre ». Les gens du livre, c'est-à-dire les gens de la Bible, de l'Évangile, de l'Avesta, des Évangiles, de l'Avesta, de l'Avesta et du Coran. Alors, ce qui serait évidemment intéressant, je pense que ça a été fait, je ne sais plus très bien, ce serait d'étudier la fascination ou l'irrigation créatrice de la Bible en ce qui nous concerne. La Bible. La Bible, c'est, vous le savez, à l'origine, ta Biblia, c'est-à-dire un pluriel neutre, ta Biblia, car effectivement, à l'origine, c'est un recueil d'œuvres, la Bible, appelée livre au pluriel, de genres divers, en deux ou trois langues, à partir de traditions orales, et qui se sont fait, écrit, cimenté pendant 9 siècles. Et tout cela a donné la Bible. Alors, il y a eu naturellement fascination de la Bible sur certaines grandes œuvres littéraires, c'est un sujet immense. Et la Bible, c'est-à-dire le livre, plutôt les livres, hein, enfin la Bible, le livre, disons, jouant ici le rôle complexe d'un modèle de forme et de contenu, et aussi, plus structurellement, le rôle de butée originelle, c'est-à-dire c'est le livre ou l'écrit au-delà duquel on ne peut pas remonter, sauf alors à dériver sur la voie humaniste ouverte par la Renaissance. Donc la Bible, dans ce cas-là, c'est la référence, c'est l'arché, le départ, et je pense évidemment à l'œuvre de Dante, qui est en fait une œuvre sans titre, car la Divine Comédie, c'est un titre ultérieur et postiche. La Divine Comédie, bon, l'œuvre de Dante, elle n'a pas de titre. Et par là même, je veux dire, ça renforce sa fascination à l'égard de la Bible. Fascination qui existe dans la mesure où Dante a cherché à atteindre, comme on a dit, l'épaisseur signifiante de l'écriture biblique, la polysémie de la lettre. Mais je pense aussi à ce qu'a écrit Marthe Robert du rapport de Kafka, du livre kafkaïen à la Bible. Donc, tout un dossier à ouvrir. Il y a des auteurs qui ont eu un rapport de fascination à la Bible, en dehors du lien religieux, qui sont certainement très nombreux, et que c'est un dossier que vous devez vous-même compléter. Je ne suis pas sûr, par exemple, que le paradis de Solers, peut-être nous le dirait-il, si nous l'invitions, et peut-être l'inviterons-nous, il nous dirait que peut-être ça a un rapport avec la Bible. Deuxième remarque, c'est que l'écrivain qui en vient à concevoir et à projeter une œuvre comme essentielle, comme prophétique, comme essence de livre, ne peut que l'assimiler chez nous, semble-t-il, à la Bible. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nietzsche, par exemple, dans Ecce Homo, le titre aussi en dit long, hein, Ecce Homo, c'est-à-dire très peu de temps avant la folie, avant l'époque d'histrionisme christique de Nietzsche, Nietzsche donc juge son Zarathustra et il dit, bon, il est déjà bien sûr dans la mythomanie, enfin dans la paranoïa mythomaniaque, d'où le ton de cette déclaration extraordinaire que je vais vous lire. Parmi mes œuvres, mon Zarathustra occupe une place à part. En l'offrant à l'humanité, je lui offre le plus grandiose présent qu'elle ait jamais reçu. Ce livre dont la voix porte au-delà des millénaires est non seulement le livre le plus haut qui soit, le vrai livre de l'ère des cimes. C'est aussi le plus profond, jamais surgi des trésors les plus secrets de la vérité, un inépuisable puits où nul seau ne descend qui ne remonte chargé d'or et de bonté. Et dans une lettre de 1888 sur Ecce Homo, donc toujours la dernière période, il dit « La lumière y est faite pour la première fois sur mon Zarathustra, le premier livre de tous les millénaires, la Bible de l'avenir, la plus forte éruption du génie humain et qui embrasse le destin de l'humanité. Mon Zarathoustra sera lu comme la Bible. Mallarmé, qui est pendant toute la seconde moitié de sa vie, a pensé, comme je l'ai dit, au livre total, n'est-ce pas, avec un grand L, Mallarmé a opéré, quant à la référence biblique, un glissement. Le livre total de Mallarmé, vous le savez, devait être lu en séance publique avec des permutations de vers à chaque séance, puisque ça devait être des vers, enfin, des permutations de vers et des permutations de place des auditeurs, selon un système apparemment très compliqué, mais très pensé. Ce qui fait que la référence de Mallarmé, à ce moment-là, visiblement n'était plus le livre immobile, la Bible comme livre immobile, mais le livre muté en rite, le livre muté en théâtre, disait le théâtre est d'essence supérieure, il a été très fasciné par le théâtre, et donc pour Mallarmé, l'arché-livre, lourd livre, ça n'était pas, je crois, la Bible, mais c'était, si l'on peut dire, la messe. Ah, car la lecture théâtrale du livre total ressemblait à une messe. Bien, avant d'aborder le second type de livre, je m'arrête 5 minutes.
C'est très rigolo, ça.
Donc, première fonction, premier type de livre, le livre origine. Deuxième type de livre que je propose, disons le livre guide, c'est-à-dire un livre unique, secret ou non, qui guide la vie d'un sujet. Le type en est évidemment le livre religieux, le livre saint, et très souvent, le livre guide se confond avec lourd livre, le livre origine. Mais il ne se confond pas forcément. Par exemple, on peut dire que pour des générations de chrétiens, l'imitation de Jésus-Christ, livre du XVe siècle en latin, a été un livre guide et non pas directement la Bible. Alors, il faudrait, mais tout ceci n'est qu'une sorte de digression hâtive, recenser, disons, les soumissions laïques à un livre guide. Je vous en donne deux exemples qui me sont venus à l'esprit. Bon, un exemple qui, je crois, célèbre, en tout cas célèbre en moi-même parce que je le cite très souvent, c'est dans la Divine Comédie de Dante, l'épisode ultra connu du livre saint, du chant 5 de l'enfer, relatif aux amours de Paolo et Francesca. Vous savez que ils sont dans Dante et Virgile arrivent au second cercle de l'enfer. Donc le second cercle, c'est pas encore trop grave, puisque ça commence au premier. Ouais. Dans le premier, ou en tout cas, il y a les neutres, n'est-ce pas, dont j'ai parlé il y a 2 ou 3 ans. J'ai oublié de dire à ce moment-là que les neutres étaient dans l'enfer de Dante. Et hélas, je serai dans cette affaire, dans cet enfer, à bien des cercles. Ce qui fait que je ne sais pas très bien comment je me débrouillerai pour être dans plusieurs cercles à la fois. Mais le second cercle, c'est le cercle des luxurieux. Et là, Dante et Virgile rencontrent deux personnages qui ont existé, Francesca da Rimini et Paolo Malatesta. Et je vais vous dire l'épisode. car Paolo et Francesca, racontant la façon dont ils se sont aimés, n'est-ce pas, c'est pour ça qu'ils sont en enfer, on raconte qu'ils ont découvert qu'ils s'aimaient et se désiraient parce qu'ils ont lu ensemble un livre, Les Amours de Guenièvre et de Lancelot du Lac. Donc le livre, c'est le livre qui a guidé leur amour, leurs amours. Et je vous lis le passage, qui est à la fois connu et beau. Puis je me tournais, c'est la traduction la plus simple, qui n'est pas celle de, comment s'appelle-t-il, Pézard, dans la Pléiade, mais la traduction de Masseron, chez Albin Michel, traduction qui est plus littérale que celle de la Pléiade. Puis, c'est au vers 115, puis je me tournais vers eux, c'est-à-dire Paolo et Francesca, et leur parlais. Je commençais. Francesca, tes souffrances me font pleurer de tristesse et de pitié. Mais dis-moi, autant des doux soupirs, à quoi et comment, amour, vous permet-il de connaître vos désirs incertains? Toujours le problème, le prochain sujet du cours, n'est-ce pas, les désirs incertains. Elle me répondit, il n'est pas de plus grande douleur que de se souvenir des jours heureux dans la misère. Et cela, ton docteur, c'est-à-dire Virgile, le sait. Mais si tu as une telle envie de connaître l'origine première de notre amour, je ferai comme celui qui pleure et qui parle. Nous lisions un jour, pour nous divertir, la geste de Lancelot, et comme amour s'empara de lui. Nous étions seuls et sans aucune défiance. À plusieurs reprises, cette lecture fit nos yeux se chercher et pâlir notre visage. Mais seul un passage triompha de nous. Quand nous lûmes que le sourire tant désiré fut baisé par un tel amant, celui-ci, qui de moi ne sera jamais séparé, à savoir Paolo, la bouche me baisa tout tremblant. Galeo fut le livre et qui l'a écrit. Ce jour-là, nous ne l'eûmes pas plus avant. Pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait si fort que de pitié, je défaillis comme si j'allais mourir et je tombais comme tombe un cadavre. Donc le livre guide ici, c'est le roman français du XIIe siècle qui raconte l'histoire de Lancelot du Lac, l'un des 12 chevaliers de la Table Ronde. C'est donc bien un livre guide. Et il y a des tas d'autres livres guides, chacun peut en trouver dans sa vie probablement. L'un de nos amis récemment, par exemple, c'est vraiment du plan de la conversation, nous a dit qu'il partait pour le Mexique à cause de au-dessus du volcan. Un livre guide, temporaire, mais c'est un livre guide. Il faut aussi penser à la dérision de ce suivisme du livre, s'il est aveugle, s'il est mécanique, et c'est tout Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet ont une idée absolue du livre, c'est vrai qu'ils en lisent beaucoup, et leur légère folie tient à ce qu'ils les appliquent immédiatement et littéralement au fur et à mesure qu'ils en lisent un. Donc voilà des exemples de livres guides. Enfin, troisième figure mythique du livre, ça serait, disons, le livre clé. Le livre clé, ça serait le livre qui semble ouvrir la compréhension d'un pays, d'une époque ou d'un auteur. Par exemple, Mallarmé l'appelle ce livre clé, dans sa syntaxe à lui, n'est-ce pas, l'œuvre, virgule, celle par excellence. L'œuvre, celle par excellence, et pour Mallarmé, l'œuvre, celle par excellence, c'est-à-dire le livre clé, c'était dans Shakespeare, c'était Hamlet. Hamlet, l'œuvre, celle par excellence. Pour toute la littérature italienne, il est évident que le livre clé, celle par excellence, c'est la Divine Comédie, qui est aussi le livre de l'origine. Or, nous n'avons pas, semble-t-il, nous, Français, dans notre littérature, un tel livre. Et on pourrait s'interroger sur, d'abord, il faudrait vérifier si nous n'avons pas un livre clé, de nous pensée, je ne le vois pas. Et donc il faudrait d'abord vérifier le fait, et ensuite il faudrait s'interroger sur les raisons et les effets. Il est certain que pour les Grecs anciens, Homère constituait le livre clé de la civilisation grecque. Pour l'Espagne, il est évident que c'est Don Quichotte. Et Severo Sarduy, un jour, me faisait remarquer que c'était un peu dommage que les Espagnols aient pris pour livre clé Don Quichotte, et que ça aurait, la vie espagnole aurait été peut-être plus drôle si les Espagnols avaient pris pour livre clé la Célestine. Pourquoi pas, après tout. C'est-à-dire qu'on pourrait dire sérieusement qu'un pays peut se tromper de livre. On pourrait imaginer qu'un pays se trompe de livre. Alors, tout cela, c'est pourquoi j'en ai dit un mot, désigne pour celui qui écrit l'espace du livre vers lequel il regarde. Et je suis persuadé qu'il y en a toujours un, le plus souvent très secret, que les critiques ne découvrent pas. Car les critiques s'occupaient, du temps où il y en avait, généralement d'influence, alors qu'il s'agit pas, d'influence, c'est pas, il s'agit de l'imposition fantasmatique d'une matrice, d'une formule, dans l'imagination, dans le désir de création de celui qui veut l'écrire. Moi-même, j'ai peut-être ce livre secret en moi, mais je ne le connais pas bien, peut-être qu'il change, et peut-être que j'en ai plusieurs en tête, entre lesquels je dois ou je devrais choisir si je veux écrire l'œuvre prochaine. Bien sûr, il ne faut pas oublier la contradictoire de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à la suggestion au livre maître, au livre comme maître, peut répondre la rébellion contre le livre, une rébellion du type Lautréamont ou Artaud, et se déchaîner contre le livre. La gageure, l'acrobatie, c'est alors de dire non au livre au moyen d'un livre. C'est pour moi un acte de mauvaise foi qui me gêne toujours un peu. Et c'est pour cela que je n'aime pas beaucoup ni Artaud ni Lautréamont. Il me semble que parler de la cochonnerie de l'écriture en écrivant ou se déterminer comme Lautréamont contre les livres finalement en faisant des livres me paraît une mauvaise foi. Et que de ce point de vue, seul Rimbaud a su éviter cette mauvaise foi en s'abordant en lui définitivement tout livre et en ne s'en expliquant même pas. Car s'il s'en était expliqué, c'était reconduire le livre sous prétexte de le nier. Voilà. Autre nouveau paragraphe. J'en viens maintenant, ce que je viens de dire, n'est-ce pas, les trois livres, les trois types de livres que je viens d'énumérer, ce sont plutôt des fantasmes de civilisation. Le livre y étant une sorte de mythe collectif, origine, guide ou reflet. Et maintenant, il faut revenir à des formes plus modestes, plus pratiques, plus personnelles aussi. Quelle forme est-ce que je désire pour l'œuvre que je veux entreprendre? Alors, j'ai dit qu'en ce qui me concernait, cette forme se situe par rapport au continu ou discontinu du discours. Et je retrouve ici une opposition dans laquelle je vais m'installer un peu, qui a été avancée par Mallarmé entre deux types d'œuvres. Il s'agit de théorie, n'est-ce pas, et pas seulement d'un classement empirique. Il s'agit d'un classement théorique qui engage une théorie de la littérature, de l'énonciation, de la composition, du monde même, comme nous allons le voir. Donc, deux types d'œuvres proposées par Mallarmé. Premièrement, le livre. Alors là, maintenant, nous pouvons dire le livre avec un grand L. Comme dit Mallarmé, retenez bien la formule, je vous prie, le livre architectural et prémédité. Architectural et prémédité. Ou encore, un livre qui soit un livre. Ou encore, le livre, persuadé au fond qu'il n'y en a qu'un, tenté à son insu par quiconque écrit. Enfin, la définition du fantasme, tout à fait. Alors donc, d'une part, le livre, architectural et prémédité, et d'autre part, ce que Mallarmé appelle l'album, opposé au livre. L'album, je cite, « recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuses ?» Recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuses. Alors, je vais revenir sur ces deux types, l'un après l'autre. Donc, d'abord, premièrement, le livre architectural et prémédité. Bon, j'ai déjà signalé que Mallarmé avait Mallarmé, dont je rappelle les dates, si vous voulez bien, 1842-1898. Donc, Mallarmé qui a fantasmé un livre total, mais qui n'a jamais réalisé ce livre total, ou un livre total, sauf peut-être dans Le coup de dé. Car en fait, et c'est là le paradoxe, Mallarmé n'a produit que des albums, et pas le livre, dont il a eu l'idée. Donc, l'idée de livre, chez lui, c'est comme un fantasme de contraste par rapport à ce qu'il a fait. Bon, il a eu l'idée du livre total, vraisemblablement, très tôt, là je renvoie à des études d'historiens de la littérature, enfin, que par exemple on dit que vers 1866, il avait déjà l'idée d'un livre total, et que vers 1867, par exemple, il pensait à une œuvre de synthèse qui aurait compris Hérodiade, plus quatre poèmes en prose sur le néant, etc. Et en rapport d'ailleurs avec le grand œuvre des alchimistes. Mais le vrai livre total fantasmé par Mallarmé est venu dans sa pensée plus tard. Il aurait commencé à travailler à cette idée du livre total vers 1873. Il l'aurait médité entre 73 et 85, puis un ralentissement, puis il s'y remet en 92-93. Et vous savez qu'en 94, très grande joie dans sa vie, il prend sa retraite de professeur. Et donc il va pouvoir écrire et ne faire que cela. Et effectivement, il consacre à partir de ce moment-là toutes ses matinées à la réflexion sur le livre total. Et de ces réflexions, je vous l'ai dit, il reste un manuscrit de 200 feuillets, c'est-à-dire non pas le livre, mais des pensées sur le livre. Et je l'ai dit aussi, on ne sait pas grand-chose sur le contenu, mais seulement sur le rituel, car c'est un livre de rituel, puisque la lecture devait s'en faire au cours de séances payantes. Et il y a imaginé par Mallarmé tout un plan financier de théâtre et d'édition, livre fait de vers ou de versets permutables, la combinatoire variant selon les séances, et par conséquent, multipliant la dissémination du livre. Enfin, le livre n'est plus objet de lecture individuelle, il est objet de dissémination dans des publics, un public qui change à chaque séance. Alors, le caractère de ce livre total, c'est qu'il est, il doit être, il devra être objectif, c'est-à-dire non personnel, et non circonstanciel. Il devra représenter la totalité des choses existantes, une somme d'essence. Et il sera ordonné selon une structure, contrairement à l'album, qui n'est pas structuré. D'où cette position paradoxale, et spécifiquement mallarméenne, que le livre est métaphysique, puisqu'il est hyperbole, comme il dit, de tout. Par les séances et la distribution combinatoire. Je sème, pour ainsi dire, ici et là, 10 fois ce double volume entier. Mais, paradoxe, cette métaphysique est entièrement constituée, comme je l'ai dit, par une physique du livre. Et c'est d'ailleurs ainsi que nous devrions appeler cette réflexion sur la forme fantasmée que je fais là, une physique du livre. Alors cette physique mallarméenne est révolutionnaire parce qu'elle constitue certainement le livre en objet pur, mais cet objet n'a pas de limite. C'est un dispositif infini, un rite renouvelable, puisque les séances peuvent être se renouveler infiniment. Comme il dit, formule célèbre, très belle, même si on l'applique à toute autre chose que ce à quoi pensait Mallarmé, un livre ne commence ni ne finit, tout au plus fait-il semblant. Mais c'est absolument vrai, même en dehors du livre Mallarmé, hein. Au fond, effectivement, un livre ne commence ni ne finit, tout au plus fait-il semblant. Et nous pourrions un jour étudier les semblants, les faire semblants du livre, les faire semblants de commencement, les faire semblants de fin du livre. Donc le livre total de Mallarmé, c'est une expérience limite, car ce livre est à la fois vide, dans l'état où nous le connaissons, et cependant, ce livre est très concret, puisque Mallarmé avait prévu et indiqué le prix des places, des séances. Il avait calculé les prix de vente du livre, avec des chiffres très précis. Et toute cette activité extraordinaire de Mallarmé à la fin de sa vie, je dirais, fait penser un peu à ces fous, en mettant bien sûr beaucoup de guillemets, parce que maintenant on ne peut plus mettre, fous sans guillemets, mais penser à ces fous qui délirent, mais qui en même temps ont un moi très fort. Ces fous qui donc délirent, mais qui savent très bien voyager, qui savent payer leurs impôts, qui savent tenir leurs comptes. Et c'est ça qu'il y a dans le livre total de Mallarmé. Il y a un délire essentiel, mais en même temps, il y a une comptabilité minutieuse du prix des places, du coût du livre, de sa rentabilité, etc. Alors, en deçà de cette expérience limite, je peux imaginer deux formes de livre total qui peuvent être désirées. J'ose pas dire fantasmer pour tout de même commencer à leur laisser leur chance d'aboutir, parce que le fantasme, ça n'aboutit jamais. Alors donc, il vaut mieux commencer maintenant peut-être à ne plus trop parler de fantasmes et à revenir à des désirs qui peuvent se réaliser. Donc, ces deux autres formes du livre total, les voici. Disons cette troisième forme, cette seconde forme après le livre total de Mallarmé. La seconde, ce serait ce que j'appellerais le livre somme, le livre trait d'union somme. En effet, je peux avoir à un certain moment de la vie, et je ne décide pas lequel, qui n'est pas forcément la vieillesse, je peux avoir le désir d'un livre où je vais mettre tout. C'est-à-dire le tout de ma vie, ou le tout de la vie, le tout de mes souffrances, de mes joies, et bien sûr le tout de mon monde. Et peut-être donc aussi le tout du monde. Et à ce moment-là, le livre, je le vivrai, ce livre désiré, je vais le vivre comme une somme de savoir au pluriel, c'est-à-dire une encyclopédie, qui peut être d'ailleurs romanesque, transcendée par un sens qu'on donne au monde et à son propre travail, c'est-à-dire, selon moi, transcendée par une écriture. Enfin, en cela, ce n'est pas une encyclopédie commerciale, c'est un livre somme parce que il y a une écriture, en somme ce savoir. Et cette écriture, c'est comme la couleur du livre. Alors, ce peut être, par exemple, je reviens donc premièrement sur cette somme de savoir. La pulsion de savoir peut exister. Il peut y avoir une pulsion du savoir. Le savoir n'est pas quelque chose qui appartient au surmoi, c'est quelque chose qui plonge dans le pulsionnel. Il y a une pulsion de savoir. Et Flaubert, vous le savez, avait cette pulsion de savoir, puisque pour chaque roman qu'il a écrit, il me faut, dit-il, apprendre un tas de choses que j'ignore. Par exemple, pour Salammbô, il a mobilisé un immense savoir archéologique et historique, un savoir éperdu, maniaque, délirant. Et j'insiste là-dessus parce que dire que j'isole cette pulsion de savoir parce que, personnellement, par moments, je l'éprouve très forte. Même si cela n'apparaît pas dans le cours, mais j'éprouve par moments très fortement une pulsion de savoir. J'ai envie de me mettre, de mettre ma vie dans l'acquisition d'un savoir, dans la grande acquisition d'un savoir. J'ai envie de me plonger, parfois, dans un savoir nouveau, une espèce d'envie bénédictine, de me plonger dans une érudition, dans la connaissance d'un secteur, un savoir nouveau, ou que j'ai très imparfaitement abordé. Par exemple, périodiquement, j'ai envie de faire à fond de la sémantique. J'ai envie de devenir sémanticien. Ou j'ai envie de faire à fond de l'étymologie, par exemple. Ce sont des envies très fortes de savoir. Alors, dans un premier temps, cette envie entre en conflit avec l'écriture, d'où, dans un second temps, le désir de résoudre la contradiction et d'amalgamer le savoir et l'écriture. Et c'est cela que j'appelle roman. Vous savez que j'emploie roman dans un sens un peu particulier, pas typique. Le roman, c'est une œuvre générale, aux formes, aux contours imprécis, mais qui précisément résout la contradiction entre la connaissance du monde et l'écriture, entre les savoirs et l'écriture. C'est-à-dire faire un roman, pour moi, ce qui me plairait d'en faire un roman, c'est que l'une des choses qui me plairait d'en faire un roman, ça serait qu'il me serait à ce moment-là nécessaire d'apprendre beaucoup de choses du monde et, en quelque sorte, de me mettre à apprendre le monde. Je viens de lire le manuscrit d'un jeune homme et j'en ai discuté avec lui de certains passages, ça se donne comme un texte romanesque. Et à un moment, par exemple, je dis ça parce que c'est vraiment ça date d'il y a deux jours, et à un moment, il a écrit dans son roman, il était à l'hôpital, le héros, c'est pas lui, c'est le héros, était à l'hôpital et on le soignait pour une hépatite virale, c'est-à-dire une jaunisse. Et je me suis dit, mais c'est pas la même chose, l'hépatite virale et la jaunisse. Ou est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu un besoin de savoir, n'est-ce pas? Et au fond, il m'a fait envie. L'auteur m'a fait envie. Parce que si j'avais été à sa place, j'aurais fouiné pour savoir si c'était la même chose. J'aurais cherché dans des livres, j'aurais interrogé pour savoir si c'était la même chose. Et donc, quand on écrit un roman, évidemment, il faut en fait savoir beaucoup de choses, hein, et beaucoup de choses très diverses du monde. Alors cela dit, je ne sais pas si l'hépatite virale et la jaunisse c'est la même chose, je ne crois pas, si vous avez des tuyaux là-dessus, mais à ce moment-là, il faut vraiment savoir, pour faire un roman, il faut savoir tout du monde, un peu de tout du monde, et c'est ça qui est effectivement très séduisant dans le roman. Le héros éponyme de cette pulsion de savoir dans la forme romanesque, c'est évidemment Flaubert. Mais vous savez que vers la fin de sa vie, il a eu un comportement très retors à l'égard de ce désir, c'est-à-dire qu'il a assumé pratiquement la nourriture de la demande de savoir en lui. Il s'est nourri de savoir en lisant une quantité énorme de livres de savoir, mais en même temps, il a distancé ce désir et cette faim de savoir par un dispositif de dérision qui était Bouvard et Pécuchet. Hein, qui sont des héros du savoir, mais du savoir mis en dérision. Et toute l'œuvre de Flaubert, on peut en dire beaucoup de choses, mais elle est située entre deux pulsions de savoir, deux traitements des pulsions de savoir, Saint-Antoine, n'est-ce pas, qui est aussi une encyclopédie de savoir, et Bouvard et Pécuchet. Autre couleur du livre Somme, c'est quand un moi total prend possession de toute l'histoire que ce moi a vécu. Dans cette définition, vous pouvez reconnaître les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand et projet totalisant qui est rendu, dans son cas, tout à fait valide puisque Chateaubriand a connu deux mondes, l'ancien et le moderne, enfin, sa vie au sens biographique a été séparée en deux, presque en partie égales, par la Révolution française. Il a donc connu deux mondes, il a été à la jointure de deux mondes, et il a joué à fond aussi deux rôles, le rôle de l'homme politique, acteur et témoin, et le rôle de l'écrivain. Je dirais que ce serait un peu, je crois que je l'ai dit déjà, un Malraux, avec peut-être tout de même un peu plus de génie en plus, un Malraux qui aurait du style. Enfin. Les mémoires d'outre-tombe, donc, qui sont une somme, mais par l'art de Chateaubriand, une somme d'objets concrets. C'est ça qui est très beau dans Chateaubriand, c'est que c'est une somme, mais c'est une somme de figures historiques, de lieux, de vêtements, d'objets symboliques, etc. Enfin, c'est toujours très concret. Et pour ça, je vous renvoie à l'admirable préface testamentaire de ces mémoires d'outre-tombe que je n'ai pas le temps de vous lire. Autre couleur du livre somme, c'est quand la somme de savoir est posée dans le livre total comme ouvrant à un monde nouveau. L'exemple, ce serait Rabelais, qui a écrit ce qu'on pourrait appeler une encyclopédie tendue vers l'avenir, c'est-à-dire une encyclopédie pro-tensive, comme le fut ensuite, plus tard, l'encyclopédie collective de Diderot. Et à ce moment-là, on a un type de livres somme qui sont des livres, disons, progressistes. Mais symétriquement, ou à l'envers, la somme, le livre somme, peut être apocalyptique. C'est-à-dire, c'est un livre qui est somme dans la mesure où il signe, où il croit signer la fin de l'histoire, et constitué par une sorte de prophétie théologique d'une phalangénésie de l'humanité, c'est-à-dire la fin d'un monde avant que l'autre commence. C'est évident, le cas typique serait évidemment Dante, puisque son œuvre est une somme de savoir au pluriel, savoir rhétorique, poétique, moral, politique, scientifique, théologique. On pourrait dire aussi que le livre somme de l'apocalypse de la bourgeoisie, c'est Balzac, mais sans protensif, sans progressisme, sans protension vers l'avenir. Et aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, eh bien, il semble que la somme des savoirs, c'est-à-dire une somme maîtrisable, une somme scriptible, soit impossible. C'est là le fait nouveau. Nous ne pouvons plus, un homme, un seul homme, ne peut plus produire une somme de la somme des savoirs. On a dit que le dernier homme à pouvoir contenir en lui tout le savoir a été Leibniz. Après Leibniz, il fallait qu'il y ait plusieurs hommes pour représenter la totalité du savoir humain, et ça a été précisément les encyclopédies du XVIIIe siècle. Donc, aujourd'hui, il n'est plus possible à un homme de maîtriser les savoirs, parce que ces savoirs se sont multipliés, parce que aussi l'épistémologie a muté. Il y a actuellement des sciences, mais il n'y a plus la science, probablement. Et aussi, troisièmement, parce que le savoir est immédiatement clivé et coloré idéologiquement. Autrement dit, parce qu'il y a une rupture de l'universalité. La civilisation a vécu pendant des siècles dans l'idée que le savoir était universel, qu'il y avait une universalité du savoir, c'est-à-dire qu'il y avait une université, car c'est ça que ça veut dire, université. Ben, quand on lit, je pensais à cela en arrivant tout à l'heure par la place de la Sorbonne, au-dessus d'une des portes de la Sorbonne, il y a écrit « Université de Paris », et bizarrement, on a rajouté un S à université, n'est-ce pas ? Parce qu'avant 68, il n'y avait qu'une université. Alors maintenant, il y en a plusieurs. Alors on a rajouté un S. Mais ça me paraissait tout à fait aberrant, qu'on puisse dire des universités. il y a une université qui est l'université du savoir, qui était l'université du savoir, et à partir du moment où le savoir n'est plus maîtrisable comme universel, ben, on ne peut plus appeler ça une université. Il faut trouver un autre mot. Je ne sais pas lequel. Encore. Donc, tout cela fait que le savoir n'est plus, ne peut plus être l'objet d'une somme produite par un seul auteur. Et c'est pourquoi le dernier projet encyclopédique que nous connaissions dans notre littérature est une farce, c'est-à-dire Bouvard et Pécuchet. C'est une farce du savoir encyclopédique. C'est-à-dire, le savoir encyclopédique revient, selon le mot de Marx, vous savez comme quoi les valeurs antiques reviennent dans l'histoire, mais à titre de farce, hein, eh bien, l'encyclopédie sérieuse, noble et grande revient, mais à titre de farce. Alors Proust, toujours, question. En un sens, dans Proust, il y a une somme du savoir, disons, psychologique, avec ses versants amoureux, mondains, esthétiques. Et en un sens, c'est un livre somme. Mais dans un sens, je pense, supérieur, c'est essentiellement un livre initiatique. C'est l'histoire d'une initiation, ce qui est différent, car il s'agit ici d'un savoir de l'âme dans Proust, c'est-à-dire d'une psychagogie, pour reprendre le mot catholicien, et, bon, disons, Deleuze a souligné les rapports possibles entre Proust et Platon. Donc, le livre total de Mallarmé, deuxièmement, le livre somme, troisièmement et dernièrement, ce que j'appellerai, le mot n'est peut-être pas très bon, le livre pur. Car ces sommes dont je viens de parler sont massives, ce sont de gros volumes avec des tomes nombreux. Ce sont par statut des accumulations, ou bien des accumulations condensatrices, ou bien des accumulations disséminantes, comme dans le livre total de Mallarmé. Mais à l'autre bout du livre total, il y a la possibilité du livre bref, du livre dense, pur et essentiel. Le petit livre, le livre pur, ou comme dit Mallarmé, car à côté de son grand projet, à un certain moment, il a eu l'idée de, je cite, « un étrange petit livre, très mystérieux, un peu déjà à la façon des pères de l'Église, toujours la matrice du livre religion, très distillé et concis. » Alors donc on peut très bien fantasmer un livre pur, c'est-à-dire un livre bref, concis, pur, petit, mais essentiel. Et je donnerai pour ma part, mais vous pouvez vous-même vous faire vos propres exemples, je donnerai pour exemple du livre pur, à mon goût, Le Monsieur Test de Valéry, qui est un livre dense, total, en un sens, puisqu'il rassemble elliptiquement l'expérience de la conscience entière. Voilà donc quelques réflexions ou aperçus sur la première forme fantasmée du volume, à savoir le livre architectural et prémédité. Donc livre soit infini par permutation des vers, des parties, des versets, c'est le livre total de Mallarmé, soit infini par sommation, accumulation, le livre somme, Dante, soit enfin ramassé et essentialisant. Alors, en face du livre, avec un grand L, il y a donc cette autre entité mallarméenne qui est l'album. C'est la forme antagoniste, paradigmatique, c'est-à-dire nécessitant, engendrant la nécessité d'un choix. C'est pas parce qu'un paradigme, ce sont deux termes en opposition, il faut choisir. Et c'est l'album qui s'oppose au livre. Alors, l'album a été, paradoxalement, je vous l'ai dit, pratiqué par Mallarmé et en même temps vivement condamné par lui. Album, il dit ce mot condamnatoire d'album. Il y a deux éléments, deux critères qui font l'album. Le premier, c'est le circonstanciel. L'album est un relevé de circonstances. Par exemple, un recueil de haïku. C'est un album, effectivement. Deuxièmement, c'est le discontinu. Soit le fil du au jour le jour, donc toutes les formes de journal, soit l'éparpillement anthologique de pièces, comme dans les recueils de poésie. Et donc, ce qui caractérise l'album, c'est l'absence de structure. L'album, c'est un ensemble factice d'éléments dont l'ordre, la présence ou l'absence sont arbitraires. En effet, un feuillet d'album, n'est-ce pas, vous connaissez certainement cette expression, surtout en musique, n'est-ce pas, dans la musique romantique de Schumann à Liszt, on trouve souvent des feuillets d'album. Ben, un feuillet d'album, ça se déplace, ou ça s'ajoute, ou ça se retranche selon le hasard. Disons que ça se déplace ou ça s'ajoute selon le hasard. Et c'est là un procédé absolument contraire au livre. Parce que dans le livre total de Mallarmé, il y a certes des permutations de parties, et donc des déplacements de parties. Mais ces déplacements sont absolument réglés par une structure, par une pensée, qui peut être une pensée combinatoire, mais qui est tout de même une pensée. Tandis que dans l'album, c'est le contingent qui règle la présence ou le déplacement du feuillet. Et c'est là un procédé donc absolument contraire au livre. Quand on réunit, par exemple, des articles recueils, autrefois, quand on faisait un sonnet de temps en temps, et puis au bout d'un certain temps, ça fait un recueil, ou encore aujourd'hui, ceux qui écrivent des poésies, ou de la poésie, bon, ils n'écrivent pas, et c'est rare qu'ils se mettent à l'écrire un livre de poésie de bout en bout d'un seul coup, n'est-ce pas? Ils écrivent de temps en temps un texte poétique et ensuite ça fait un recueil, un album. C'est ce que Mallarmé appelait « envoyer au vivant sa carte de visite ». N'est-ce pas? Et en effet, c'est bien cela. On fait très souvent, quand on écrit comme ça des petits textes, des articles, des petits interviews, des petites préfaces, ben on envoie sa carte de visite. Mais c'est pas très drôle finalement. Une activité d'écriture réduite à la carte de visite. C'est ce qui fait que finalement, cette activité de l'album est plus égotiste, n'est-ce pas, que le livre apparemment prétentieux en tant que livre total. Donc, le type d'album sont par exemple les divagations de Mallarmé. Le livre qui s'appelle Divagations, un livre, dit-il, comme je ne les aime pas, ce épars et privé d'architecture. Et l'album a, pour Mallarmé, la même tare que le journalisme. Nul n'échappe décidément au journalisme. Phrase. Combien actuel, n'est-ce pas? Tout aujourd'hui nous entraîne au journalisme et nous y oblige. Alors, pour Mallarmé, le mot album est donc péjoratif, d'où sa pensée fantasmatique du livre, ou plutôt l'ambition du livre l'obligeait à discréditer après coup l'album. Ou encore, ça n'est pas le même enjeu, la même option philosophique, comme on le verra un peu plus tard. Mais naturellement, on peut avoir un sentiment adverse et on peut exalter l'album à l'égal du livre, exalter comme valeur l'album. Et ce sera alors la défense ardente et souvent assez révolutionnaire de ce qu'on pourrait appeler le rhapsodique. Le mot rhapsodique, n'est-ce pas, c'est l'origine du mot grec, je l'ai dit, c'est raptein, qui veut dire coudre. Alors, le rhapsodique, la rhapsodie, c'est un ensemble de pièces diverses qui sont cousues entre elles, n'est-ce pas. Et c'est un peu comme un patchwork, le rhapsodique. Et c'est un mot qui est employé par Baudelaire, quand il traduit Poe, et qu'il dit, une procession magnifique et bigarrée de pensées désordonnées et rhapsodiques. Et il ajoute le mot rhapsodique qui définit si bien un train de pensée suggéré et commandé par le monde extérieur et le hasard des circonstances. Ça, c'est tout à fait la définition de l'album, n'est-ce pas? Et vous savez qu'il y a de grands créateurs qui sont du côté de l'album, et pas du livre. Par exemple, Schumann, c'est un grand musicien de l'album. Et l'album n'implique pas, on peut le penser, une pensée moindre que celle du livre total. Car si le livre se donne pour but de représenter l'essentiel du monde ou le monde comme essentiel, on peut dire que le but de l'album, qui est aussi valable, c'est de représenter le monde comme inessentiel. C'est une représentation. À ce moment-là, l'album devient une représentation essentielle du monde comme inessentiel, comme tissu de contingence. C'est pourquoi, poursuivant cette réflexion sur l'album, je dirais que les fragments dont on s'occupe beaucoup depuis quelques années, il y a eu un très bon numéro d'une publication en fait surtout à l'école de Fontenay, je crois, à l'école normale de Fontenay, sur les fragments. Eh bien, les fragments ne sont pas nécessairement du côté de l'album. Et la notion de fragment est facilement spécieuse. L'année dernière, un auditeur m'avait fait remarquer très justement que La recherche du temps perdu était en fait un tissu de fragments. Mais il y a tout de même une architecture au sens musical dans La recherche, qui n'est pas de l'ordre du plan, mais de l'ordre du retour, du marcottage, du retour. Retour prévu par Proust, et à ce moment-là, ce livre de fragments devient un livre architectural et prémédité. Nietzsche, par exemple, a une écriture par fragments. Vous voyez comment sont ses livres avec ses grands paragraphes numérotés. Hein. Nietzsche écrit par fragments, et cependant, je renvoie ici à Deleuze, le livre nietzschéen est une superposition très complexe de construction. Et notamment, on voit le mécanisme dans ce livre qui n'a jamais été achevé, qu'on appelle improprement la volonté de puissance. En fait, si on interroge le fantasme, puisque c'est de cela qu'il s'agit, la sensibilité, c'est-à-dire le recul, l'attrait ou l'intolérance, s'adresse au mode du suivi, c'est-à-dire un suivi circonstanciel, chronologique, sans construction, qui est eidétiquement réalisé dans le journal intime, peut faire problème comme création. Et donc c'est cela qui est en cause, c'est le suivi circonstanciel. Mais donc un livre de fragments peut être le livre, il ne faut pas confondre. Mais effectivement, un journal intime ne peut pas être le livre, parce qu'il est purement circonstanciel. Et c'est comme ça qu'il faut expliquer le dégoût, on peut parler de ce mot, que Proust avait pour le journal intime. Il me semble je n'ai jamais lu qu'on s'étonna finalement de ce fait que Proust n'ait jamais tenu de journal intime. Et il écrivait notamment Proust à son ami Guiche, dont nous verrons la belle photo lors du séminaire sur Proust, dans un mois et demi à peu près, l'écrivait, surtout, ne prenez pas la peine de me répondre, pour un peu ce serait un commencement de correspondance suivie. Chose affreuse, ce qu'il y a de pire, après, écrire son journal au jour le jour. Alors, vous savez que Proust, le problème, c'est qu'il a produit une énorme correspondance, mais cette correspondance n'était pas évidemment suivie. C'était une sorte d'interlocution éclatée de Madame Strauss à ses concierges. Je dirais que sur ce problème subtil du fragment et de l'album, on pourrait se servir d'une distinction du musicien John Cage, que j'ai cité plusieurs fois, à propos de Schoenberg. Distinction entre structure et méthode. Et je dis que la méthode, c'est par exemple le fait que Schoenberg se souciait du mouvement d'un son à l'autre. Il pensait le mouvement d'un son à l'autre. Et il dit, cela, ce n'est pas une question de structure, c'est ce que j'appelle une méthode. Il emploie évidemment le mot, probablement au sens étymologique, de cheminement, pas de chemin. C'est une méthode. La méthode consiste à marcher avec le pied droit, puis le gauche. On peut marcher ainsi avec les 12 sons, n'est-ce pas? Effectivement, on peut aller d'un son à un autre, c'est une méthode. Ou bien avec le contrepoint. La démarche de Schoenberg est essentiellement méthodique. Alors en ce sens, le journal intime relèverait de la méthode, puisqu'il va d'un jour à l'autre, comme d'un son à l'autre. Et à cela, John Cage oppose la structure chez Schoenberg, qui est la division d'une œuvre en parties. Quand on se sert de la tonalité, la structure dépend de la cadence, parce que c'est la cadence seule qui permet de délimiter les parties d'une œuvre musicale. Ça, c'est important, n'est-ce pas? Parce qu'on voit bien que la structure, ça n'est pas du tout le plan. Ça n'a rien à voir avec le plan. Une analyse structurale n'est pas une explication de texte selon le plan. La structure, ce n'est pas le plan, et on pourrait dire que la structure, c'est la tonalité. C'est la considération de la tonalité. Un système unitaire dont l'unité s'impose à la fin. Cadence. La cadence, c'est la chute. C'est ce qu'il y a à la fin. Alors, l'album serait atonal, sans cadence, et le livre serait tonal, il y aurait une cadence. En effet, la Divine Comédie, la Recherche, Monsieur Test, il y a une tonalité, il y a une cadence, il y a une structure. Je termine d'un mot. Lorsqu'il y a suspicion à l'égard de l'album, et principalement du journal intime, cette suspicion, et je dirais pour moi ce malaise, s'adresse en fait, voilà ce que je voulais dire, à la parole. Personnellement, ce que je suspecte dans l'album, c'est la parole. Ça n'est pas finalement le circonstanciel ou ces caractères-là, c'est la parole, opposée à l'écriture. Le grand problème de la parole, en effet, c'est que sa valeur est fragile. Une parole, et c'est pour ça que les métiers de la parole devraient être éprouvants, la parole se dévalorise au fur et à mesure qu'elle s'actualise. Parler, c'est en même temps, en l'espace d'un dixième de seconde, s'emballer pour ce qu'on dit et se décevoir de ce qu'on dit. Parce que dans ce dixième de seconde, il y a le retour de l'image. Quand je parle, immédiatement, je pense à l'image de ma parole qui se forme en vous, qui êtes là. Par là même, je suis pris dans un processus imaginaire qui est vertigineux, qui est sans solution, sans apaisement. Peut-être qu'on est bavard précisément parce qu'on veut sans cesse rattraper la parole. C'est pas les bavards sont des êtres en général fragiles finalement, pas angoissés, parce qu'ils veulent toujours ajouter de la parole pour rattraper la parole précédente. Alors le problème de la parole, c'est qu'elle se dévalorise immédiatement au fur et à mesure qu'elle s'actualise. Et en face, le régime de la parole, c'est la déflation. C'est une activité de déflation. D'inflation d'abord et ensuite de déflation brusque. Et moi je crois qu'en face, l'écriture, c'est précisément ce qui stoppe, je dirais, l'hémorragie épuisante de l'imaginaire, qui est une hémorragie qui est à même la parole. Alors évidemment, à cette guérison par l'écriture de l'hémorragie d'imaginaire, il y a des inconvénients, à savoir que l'écriture est dure, difficile, peu gratifiante. Parce que justement, elle est une sorte de critique de l'imaginaire. Or, si l'album repose sur la notation, dans le cas du journal intime, à ce moment-là, il est une sorte d'intermédiaire facilement décevant entre la parole et l'écriture. La notation est déjà de l'écriture, mais elle est encore de la parole, et c'est un statut très fragile. Et Kafka parle par exemple de la notation, je cite, « dont l'absence de valeur est reconnue trop tard ». Description typique de la parole, n'est-ce pas ? Quand je parle, l'absence de valeur de ce que je dis est reconnue trop tard. Par exemple, maintenant, je pourrais faire marcher le mécanisme. Je vous dis cela et immédiatement, je reconnais trop tard que ce que je dis n'a pas de valeur. Mais c'est déjà dit. Alors à ce moment-là, je vais rajouter des choses. Je vais passer à autre chose, comme je vais le faire maintenant. Mais il y a toujours cette mécanique, n'est-ce pas, de la déception dans la parole. Alors je continue la citation de Kafka, ou plutôt je donne une autre citation de Mallarmé, qui a très bien dit ce procès déceptif, cette déflation, dans sa syntaxe à lui. Alors écoutez bien, parce que c'est un peu obscur, première écoute. Ou, une alternative, la seconde partie d'une alternative, n'est-ce pas, ou, autre verbiage, verbiage, parole, n'est-ce pas, autre verbiage, devenu tel, devenu verbiage, devenu tel, pour peu qu'on l'expose, de persuasif, songeur et vrai, quand on se le confie bas. Le verbiage qu'on se confie bas est plein de valeur, mais pour peu que je l'expose, c'est-à-dire pour peu que je le fasse passer vers vous, à ce moment-là, il devient du verbiage. Ce qui était songeur, persuasif et vrai, dès que je le parle, ça devient du verbiage. Et donc, naturellement, tout n'est pas perdu, si j'ose dire, et une dialectique est possible. On pourrait dire que vaille, le cours ici fonctionne sur une espèce de dialectique grossière et très, comment dirais-je, à la fois risquée et fragile, n'est-ce pas, entre l'écriture et la parole. Il tient comme ça pendant quelques semaines entre l'écriture et la parole, parce que on cherche, nous, même s'il n'y a que moi qui parle, vous êtes là et donc nous faisons tous ensemble, nous essayons de créer une espèce de forme intermédiaire entre l'écriture et la parole, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça que ça tient. Vaille que vaille, provisoirement peut-être, je ne sais pas. C'est comme ça que ça va, c'est tout. Alors, donc tout n'est pas perdu, c'est-à-dire qu'une dialectique est possible, et je cite ici Kafka, « Quand je dis quelque chose, quand je dis quelque chose, cette chose perd immédiatement et définitivement son importance. » Malédiction de la parole. « Quand je la note, passage de l'écriture, elle la perd aussi, mais en gagne parfois une autre. » C'est très beau, parce que c'est absolument exact. C'est sans concession. C'est pas désespéré, mais c'est difficile, parce que c'est parfois. Quand on note, c'est seulement parfois que ça gagne une autre valeur. C'est ça la chance, l'aléa, le miracle de l'écriture, que ce qui a perdu de la valeur quand on le parlait, gagne une autre valeur quand on l'écrit, mais ça n'est pas sûr. Voilà, à samedi prochain.